Chapitre 9e. Quatrième degré de la voie passive en foi. Vie divine. Lorsque ce torrent commence à se perdre dans la mer, on le distingue fort bien un temps notable. On aperçoit son mouvement, et enfin, peu à peu, il perd toute figure propre pour prendre celle de la mer. L'âme, tout de même, sortant de ce degré et commençant de se perdre, conserve encore quelque chose de propre. Mais après quelque temps, elle perd tout ce qu'elle avait de propre. Ce corps dont la pourriture a été réduite en cendres est encore poudre et cendre. Mais si une personne avalait ces cendres, il ne resterait plus rien de propre, et il en serait fait une même chose avec la personne qui les prendrait. L'âme jusqu'à présent, quelque morte et pourrie qu'elle ait été, a toujours conservé son être propre et ne l'a point perdu. Il n'y a qu'en ce degré qu'elle est véritablement tirée hors d'elle-même. Tout ce qui s'est passé jusqu'à présent s'est passé dans la capacité propre de la créature. Mais ici, cette créature est tirée de sa capacité propre pour recevoir une capacité immense en Dieu même. Et comme ce torrent, par exemple, lorsqu'il entre dans la mer, perd son être propre en sorte qu'il ne lui en reste plus rien, pour prendre celui de la mer, ou plutôt, il est tiré de soi pour se perdre en la mer. De même, cette âme perd l'humain pour se perdre dans le divin, qui devient son être et sa substance. Non essentiellement, mais mystiquement. Alors ce torrent possède tous les trésors de la mer, et autant qu'il a été pauvre et misérable, autant est-il glorieux. C'est donc dans ce tombeau que l'âme commence à reprendre vie, et la lumière y paraît, insensiblement. C'est alors qu'on peut dire avec vérité que ceux qui reposent dans les ténèbres ont vu une grande lumière, et que le jour s'est levé sur ceux qui demeuraient dans la région et dans l'ombre de la mort. Il y a une belle figure dans Ézéchiel de cette résurrection où les ossements reprennent vie peu à peu. Puis cet autre passage, le temps est venu que les morts entendront la voix du Seigneur. Ô âme qui sortez du sépulcre, vous sentez en vous un germe de vie qui vient peu à peu. Vous êtes tout étonné qu'une force secrète s'empare de vous. Ces cendres se raniment. Vous vous trouvez dans un pays nouveau. Cette pauvre âme, qui ne pense plus qu'à demeurer en paix dans le sépulcre, reçoit une agréable surprise. Elle ne sait que croire et que penser. Elle croit que le soleil a dardé pour un peu ses rayons par quelques fentes et ouvertures, mais que ce n'est que pour quelques moments. Elle est bien plus étonnée lorsque elle sent cette vigueur secrète s'emparer plus fortement de toute elle-même et que peu à peu elle reçoit une nouvelle vie pour ne plus la perdre, du moins autant que l'on peut être assuré en cette vie, ce qui n'arriverait pas sans la plus noire infidélité. Mais cette vie nouvelle n'est plus comme autrefois. C'est une vie en Dieu. C'est une vie parfaite. Elle ne vit plus, n'opère plus par elle-même. Mais Dieu vit, agit et opère. Et cela va s'augmentant peu à peu, en sorte qu'elle devient parfaite de la perfection de Dieu, riche de sa richesse. Elle aime de son amour. L'âme sent bien que tout ce qu'elle avait eu autrefois, pour grand qu'il parût, avait été en sa possession. Mais à présent, elle ne possède plus, mais elle est possédée. Et elle n'est plus et ne prend une nouvelle vie que pour la perdre en Dieu. Ou plutôt elle ne vit que de la vie de Dieu, qui étant le principe de vie, cette âme ne peut manquer de rien. Quel gain n'a-t-elle point fait pour toutes ses pertes? Elle a perdu le créé pour l'incréé, le rien pour le tout. Tout lui est donné, non en elle, mais en Dieu, non pour être possédée d'elle, mais pour être possédée de Dieu. Ses richesses sont immenses, elles sont Dieu même. Elles sont tous les jours sa capacité, s'accroître, et une largeur et étendue qui augmente chaque jour. Il semble que ses capacités deviennent immenses, toutes les vertus lui sont redonnées, mais en Dieu. Il faut remarquer que, comme elle n'a été dépouillée que très peu à peu et par degrés, elle n'est enrichie et revivifiée que peu à peu. Plus elle se perd en Dieu, plus sa capacité devient grande, comme plus ce torrent se perd dans la mer, plus il est élargi et devient immense, n'ayant point d'autre borne que la mer. Il en participe toutes les qualités. L'âme devient forte, immense, ferme. Elle a perdu tous les moyens, mais elle est dans la fin. Comme une personne qui marcherait sur la terre pour se perdre en mer, se servirait de ce moyen de marcher pour y arriver et le perdrait pour s'y abîmer. Cette vie divine devient toute naturelle à l'âme. Comme l'âme ne se sent plus, ne se voit plus, ne se connaît plus, elle ne voit rien de Dieu, n'en comprend rien, n'en distingue rien. Il n'y a plus d'amour, de lumière, ni de connaissance. Dieu ne lui paraît plus, comme autrefois, quelque chose de distinct d'elle. Mais elle ne sait plus rien, sinon que Dieu est, et qu'elle n'est plus, ne subsiste plus, et ne vit plus qu'en lui. Ici, l'oraison est l'action, et l'action est l'oraison. Tout est égal, tout est indifférent à cette âme, car tout lui est également Dieu. Autrefois, il fallait pratiquer la vertu pour faire les œuvres vertueuses. Ici, toute distinction d'action est ôtée, les actions n'ayant plus de vertu propre, mais tout étant Dieu à cette âme, l'action la plus basse comme la plus relevée, pourvu qu'elle soit dans l'ordre de Dieu et dans le mouvement divin. Car ce qui serait de choix propre, s'il naît dans cet ordre, ne ferait pas le même effet, faisant sortir de Dieu à cause de l'infidélité. Non que l'âme sorte de son degré, ni de sa perte, mais seulement du mouvement divin, qui rend toute chose une et toute chose Dieu, non par vue, application et pensée, mais par état, en sorte que l'âme est indifférente d'être, d'une manière ou d'une autre, dans un lieu ou dans un autre. Tout lui est égal, et elle s'y laisse aller comme naturellement. Cette vie est rendue comme naturelle, et l'âme agit comme naturellement. Elle se laisse aller à tout ce qui l'entraîne, sans se mettre en peine de rien, sans rien penser, vouloir ou choisir, mais demeure contente, sans soin ni souci d'elle, n'y pensant plus, ne distinguant plus son intérieur pour en parler. L'âme n'en a plus. Il n'est plus question ni de recueillement ou de divagation. L'âme n'est plus au-dedans, elle est toute en Dieu. Il ne lui est plus nécessaire de s'enfermer dans son fond, elle ne pense plus à l'y retrouver, elle ne l'y cherche plus. Comme si une personne était toute pénétrée de la mer, dedans et dehors, dessus et dessous, de tous côtés et la mer. Elle n'aurait besoin ni d'un lieu, ni d'un autre, mais de se tenir comme elle saurait. Aussi cette âme ne se met pas en peine de chercher ni de rien faire. Elle demeure comme elle est, et cela suffit. Mais que fait-elle? Rien, rien et toujours rien. Elle fait tout ce qu'on lui fait faire. Elle souffre tout ce qu'on lui fait souffrir. Sa paix est toute inaltérable, mais toute naturelle. Elle est comme passée en nature. Mais quelle différence de cette âme à une personne toute dans l'humain? La différence est que c'est Dieu qui l'a fait agir, sans qu'elle le sache, et auparavant, c'était la nature qui agissait. Elle ne fait ni bien ni mal, ce semble, mais elle vit contente, paisible, faisant d'une manière agile et inébranlable ce qu'on lui fait faire. Dieu seul est son guide, car dans le temps de sa perte, elle a perdu toute volonté. Ici l'âme n'en a plus de propre, et si vous lui demandiez ce qu'elle veut, elle ne le pourrait dire. Elle ne peut plus choisir. Tous désirs sont ôtés, parce qu'étant dans le tout et dans le centre, le cœur perd toute pente, tendance et activité, comme il perd toutes répugnances et contrariétés. Ce torrent n'a plus de pente, ni de mouvement. Il est dans le repos et dans la faim. Mais de quel consentement cette âme est-elle contente? Du contentement de Dieu, immense, général, sans savoir ni comprendre ce qui la contente, car ici tout sentiment, goût, vue, notice particulière, quelque délicat qu'il soit, sont ôtés. Rien ne touche l'âme, ni amour, ni connaissance, ni intelligence. Ce certain je ne sais quoi qui l'occupait autrefois, sans l'occuper, est ôté, et il ne lui reste rien. Mais cette insensibilité est bien différente de celle de mort, sépulcre, pourriture. Alors c'était une privation de vie, de mouvement pour les choses, un dégoût, une séparation, une impuissance de mourant et une insensibilité de mort. Mais ici, c'est une élévation au-dessus de ces choses qui n'en prive pas, mais les rend inutiles. Un mort est privé de toutes les fonctions de la vie par une impuissance de mort ou par un dégoût de mourant. Mais s'il est ressuscité et glorieux, il est tout plein de vie, sans moyen de se la conserver par usage de ses sens. Mais s'il est ressuscité et glorieux, il est tout plein de vie, sans moyen de se la conserver par usage de ses sens. Étant au-dessus de tout moyen, par son germe d'immortalité, et il ne sent pas ce qui l'anime, quoique il se voie en vie. Je ne saurais mieux expliquer cela que par la mort. Lorsque l'on meurt, on sent la séparation de son âme d'avec le corps. Cette âme est-elle séparée? On ne sent plus rien, mais c'est sans vie, et la mort fait la séparation de tout. L'homme ressuscite-t-il? Il se sent revivifié. Lorsqu'il est réanimé, il éprouve en cet état que Dieu est l'âme de son âme, la vie de sa vie, et d'une telle manière qu'il s'en rend le principe comme naturel, sans que l'âme le sente ou l'aperçoive à cause de son unité et intimité, s'il est permis de se servir de ce mot. L'âme sent bien qu'elle vit, agit, marche et fait toutes les fonctions de la vie, mais sans sentir son âme. Lorsque nous avons quelque goût de Dieu, si délicat qu'il soit, que l'on connaît ses enfoncements, certaines langueurs, peines, amour, désir, jouissance, ce n'est point ce degré ici, mais bien quelque autre. Car ici, Dieu ne peut être goûté, senti, vu, étant plus nous-mêmes que nous-mêmes, non distincts de nous. Si une personne pouvait vivre sans manger dans un grand dégoût, elle sentirait d'abord son dégoût, ensuite son impuissance de manger, mais elle ne sentirait pas de plénitude. Ici, l'âme n'a pas de pente, ni de goût pour rien. Dans l'état de mort et de sépulture, il en est bien ainsi, mais non pas de même. Là, c'est par dégoût et impuissance, mais ici, c'est par plénitude et par abondance, comme si une personne pouvait vivre d'air. Elle serait pleine sans sentir sa plénitude, ni comment elle lui serait venue. Elle ne serait pas vide, ni impuissance de manger, de goûter, mais hors de nécessité de manger, par plénitude, sans savoir comment l'air, entrant par tous ses pores, ferait une pénétration égale. L'âme ici est en Dieu, comme dans l'air, qui lui est propre et naturel, pour maintenir sa nouvelle vie, et elle ne le sent pas plus que nous ne sentons l'air que nous respirons. Cependant, elle est pleine, et rien ne lui manque. C'est pourquoi tous désirs lui sont ôtés. La paix est grande, non comme dans les autres états. Dans l'état passé, c'était une paix inanimée, une certaine sépulture dont il sortait quelquefois des exhalaisons qui la troublaient. Dans l'état de poudre, elle était en paix, mais c'était une paix inféconde, semblable à un mort qui serait en paix dans les orages et les flots les plus mutinés de la mer. Il ne les sentirait pas, il n'en aurait pas de peine, son état de mort le rendant insensible. Mais ici, c'est que l'âme est mise au-dessus, comme si, d'une montagne, elle voyait gronder les flots sans craindre leur attaque. Ou, si vous voulez, comme si on était dans le fond de la mer, lequel est toujours tranquille pendant que la superficie est en agitation. Les sens peuvent souffrir leur peine, mais le fond est de même égalité, à cause que celui qui le possède est immuable. Ceci suppose la fidélité de l'âme, car en quelque état qu'elle soit, elle peut déchoir et retomber en elle-même. Mais ici, l'âme fait des démarches presque infinies dans Dieu, et elle peut avancer incessamment, de même que si la mer était sans fond, une personne qui y serait tombée s'enfoncerait jusqu'à l'infini, et allant toujours plus approfondissant, plus en découvrirait-elle les beautés et les trésors. Il en est ainsi de cette âme en Dieu. Mais que doit-elle faire pour être fidèle à Dieu? Rien, et moins que rien. Il faut se laisser posséder, agir, mouvoir sans résistance, demeurer dans son état naturel et de consistance, attendant tous les moments et les recevant de la Providence, sans rien augmenter ni diminuer, se laissant conduire à tout, sans vue ni raison, ni sans y penser, mais comme par entraînement, sans penser à ce qui est de meilleur et de plus parfait, mais se laissant aller comme naturellement à tout cela, demeurant dans l'état égal et de consistance où Dieu l'a mise, sans se mettre en peine de rien faire, mais laissant à Dieu le soin de faire naître les occasions et de les exécuter. Non que l'on fasse des actes d'abandon ou de délaissement, mais on y demeure par état. L'âme ne saurait agir pour peu que ce soit sans faire une infidélité. Comme dans l'état de mort et de pourriture, elle doit se laisser pourrir sans rien pouvoir faire et sans avoir envie de rien faire. L'homme qui expire sent un dégoût de tout ce qui peut entretenir la vie, ensuite une impuissance d'en user. Il meurt et tout lui devient inutile. Dans tous ces états, il faut bien de la fidélité pour se laisser dénuer, quitter la pourriture lorsque le dégoût en prend et laisser toute chose dans le temps, quelque délicate qu'elle soit. Mais ici, l'âme a tout, sans rien avoir. Elle a la facilité pour tout ce qui est de son devoir, pour agir, dire et faire, non plus à sa manière, mais en la manière de Dieu. Ici, la fidélité ne consiste pas à tout cesser comme celui qui est mort, mais à ne rien faire que par le principe vivifiant qui l'anime. Une âme, en cet état, n'a pente pour rien, mais elle se laisse aller comme on veut et ne fait rien qu'être comme on la met et sans s'en mettre en peine. L'âme ne peut parler de son état, ne le voyant pas, mais bien des actions de vie qu'elle exerce, car, quoique il y ait alors bien des choses extraordinaires, elles ne sont plus comme dans les premiers états où la créature y avait quelque part, ce qui était être propriétaire. Mais ici, les choses les plus divines et miraculeuses sont comme toutes naturelles à l'âme. Elle les fait sans y penser, et c'est le même principe qui la fait vivre, et c'est le même principe qui la fait vivre, qui les fait en elle et par elle. Elle a comme un pouvoir souverain sur les démons, et même sur les esprits des personnes dont elle est chargée. Mais tout cela hors d'elle. Comme elle n'est plus propriétaire, elle n'a plus de réserve, et si elle ne peut rien dire d'un état si sublime, ce n'est point qu'elle craigne la vanité, car cela n'est plus, ce n'est point non plus faute de lumière pour s'exprimer, comme dans les degrés inférieurs. C'est à cause que ce qu'elle a, sans rien avoir, passé toute expression par son extrême simplicité et pureté. Ce qui n'empêche pas qu'il ne se passe mille choses qui sont comme les accidents de cet état et qui n'en sont pas le fond, dont elle peut fort bien parler. Ces accidents sont comme les miettes qui tombent du festin éternel que l'âme commence dans le temps. Ce sont des bluettes qui font connaître qu'il y a là une source de feu et de flamme. Mais de parler de leurs principes et de leurs fins, elle n'en peut ni n'en veut rien dire, n'en ayant de connaissance qu'autant qu'il plaît à Dieu d'en donner, dans le moment pour le dire et pour l'écrire. L'âme ne voit-elle pas ses défauts ou n'en commet-elle point? Elle en commet et les connaît mieux que jamais, surtout dans ce commencement de vie nouvelle. Ceux qu'elle commet sont bien plus subtils et délicats qu'autrefois. Elle les connaît mieux parce qu'elle a les yeux ouverts, mais elle n'en a pas de peine et n'en peut rien faire pour s'en défaire. Elle sent bien, lorsqu'elle a fait une infidélité ou commis une faute, un certain nuage ou bien une poussière s'élever, mais elle retombe d'elle-même sans que l'âme fasse rien, ni pour la faire tomber, ni pour s'en nettoyer. Outre que tous les efforts de l'âme seraient pour lors inutiles, et ne serviraient même qu'à augmenter l'impureté, et l'âme sentirait fort bien que la seconde souillure serait pire que la première. Il ne s'agit point ici de retour, quelque simple qu'il puisse être, parce qu'en disant « retour », on suppose « éloignement ». Et si on est Dieu, il ne faut que demeurer en lui. De même que, quand il s'élève quelques petits nuages dans la moyenne région de l'air, si l'air souffle, il agite les nuages et ne les dissipe pas. Au contraire, il faut laisser au soleil de les dissiper lui-même. Plus les nuages sont subtils et délicats, plus tôt le soleil les a dissipés. Oh, si l'âme avait assez de fidélité pour ne se jamais regarder elle-même, quelle démarche ne ferait-elle pas? Ses vues propres sont comme de certains petits arbrisseaux qui soutiennent dans la mer et qui empêchent que l'on ne tombe plus avant tout autant que leur soutien dure. Si les branches en sont très délicates, le poids du corps les abat et l'âme n'est arrêtée que des moments. Mais si, par infidélité notable, l'âme se regardait volontairement et longtemps, elle serait arrêtée autant de temps que son regard durerait et sa perte serait très grande. Les défauts de cet état sont certaines légères émotions ou vues de soi qui naissent et meurent dans le moment. Certains vents de vue propre qui passent sur cette mer calme font des rides, mais ces défauts se dissipent peu à peu et deviennent toujours plus délicats. L'âme, au sortir du tombeau, se trouve, sans savoir comment cela s'est fait, et sans y avoir pensé, revêtue de toutes les inclinations de Jésus-Christ, non par vue distincte ni pratique, mais par état, les trouvant toutes dans l'occasion, lorsqu'elle en a affaire, sans qu'elle y pense. Comme une personne qui aurait un trésor enfermé, sans y penser, le trouve dans le besoin. L'âme est surprise que, sans avoir réfléchi sur les états de Jésus-Christ, ni sur les inclinations depuis les 10, les 20, les 30 dernières années, elle les trouve imprimées en elle par état. Ces inclinations de Jésus-Christ sont la petitesse, la pauvreté, soumission et le reste des vertus de Jésus-Christ. L'âme trouve que cela se fait en elle, mais si aisément qu'il semble qu'elle lui soit redevenue naturelle. C'est alors que son trésor est en Dieu seul, où elle puise sans cesse et sans fin ce qui lui est propre, sans le diminuer ni tarir. C'est alors que l'on est revêtu véritablement de Jésus-Christ, et c'est proprement lui qui est agissant, parlant, conversant en l'âme, notre Seigneur Jésus-Christ, étant le principe de ses mouvements. C'est pourquoi le prochain ne l'incommode plus. Son cœur s'élargit tous les jours pour le contenir. Elle n'a plus d'inclination, ni pour l'action, ni pour la retraite, mais pour être ce qu'on l'a fait être à chaque moment. Comme l'âme peut faire ici des démarches infinies, je laisse à ceux qui en ont l'expérience de les écrire, la lumière ne m'en étant pas donnée pour les degrés supérieurs, et mon âme n'étant pas assez avancée en Dieu pour les voir ni les connaître. Ce que je dirai est qu'il est aisé de remarquer, par la longueur des démarches qu'il faut que l'âme fasse pour arriver en Dieu, que l'on n'y est pas arrivé si tôt que l'on s'imagine, et que les âmes les plus spirituelles et les plus éclairées prennent la consommation de l'état passif de lumière de l'amour pour la fin de celui-ci, et ce n'en est que le commencement. C'est pourquoi les âmes n'avancent pas, pour ne se pas laisser assez dénuer, et pour le faire trop tôt. Tant que l'on trouve goût à quelque pratique ou prière, il ne la faut jamais quitter que le dégoût n'en vienne avec une certaine difficulté et peine de le faire. Car d'attendre l'impuissance absolue, c'est attendre des miracles. Dieu les donne à certaines âmes qui n'ont pas la lumière du dénuement et qui n'ont personne pour les y conduire, leur faisant faire d'autorité absolue ce qu'elles ne connaissent pas. Il faut remarquer que, dans la voie de lumière et d'amour passif, il y a des sécheresses, aridité, peine, ennui, mais le tout n'est ni de la longueur, ni de la qualité de celle que j'ai décrite dans la voie de foi nue. C'est pourquoi il faut prendre garde de ne s'y méprendre. C'est au directeur de juger de tout. Heureuse l'âme qui en trouve un expérimenté. Il faut aussi remarquer que ce que je dis des inclinations de Jésus-Christ se commence dès que la voie de la foi nue commence. Quoique l'âme, dans toute sa voie, n'ait point de vue distincte de Jésus-Christ, elle a cependant un désir de s'y conformer. Elle désire la croix, la petitesse, la pauvreté. Ensuite, ce désir se perd, et il reste une pente, une inclination secrète pour les mêmes choses, qui va toujours de plus en plus s'approfondissant, se simplifiant, devenant tous les jours plus intime et plus caché. Mais qui dit inclination, pente, tendance, quelque délicate qu'elle soit, dit une chose que l'on ne possède pas et qui est hors de nous. Mais ici, les inclinations de Jésus-Christ sont l'état de l'âme, lui sont propres, habituelles et comme naturelles, comme chose non différente d'elle, mais comme son propre être et comme sa propre vie, Jésus-Christ les exerçant lui-même, sans sortir de lui, et l'âme les exerçant avec lui, en lui, sans sortir de lui, non comme quelque chose de distinct qu'elle connaît, voit, propose, pratique, mais comme ce qui lui est le plus naturel. Toutes les actions de vie, comme la respiration, etc., se font naturellement, sans y penser, sans règle ni mesure, mais selon le besoin, et cela se fait sans vue propre de la personne qui les fait. Il en est ainsi des inclinations de Jésus-Christ en ce degré, qui va toujours en augmentant, plus l'âme est transformée en lui et devenue une même chose avec lui. Mais n'y a-t-il donc point de croix en cet état? Comme l'âme est forte de la force de Dieu même, Dieu lui donne plus de croix et plus pesante, mais elle les porte divinement. Autrefois, la croix la charmait, et elle l'aimait et la chérissait. À présent, elle n'y pense plus, elle la laisse aller et venir, et cette croix lui devient Dieu comme le reste, ce qui n'empêche pas la souffrance, mais la peine, le trouble et l'occupation de la souffrance. Il est vrai que les croix ne sont plus croix, mais elles sont Dieu. Aussi ne sanctifient-elles point, mais elles divinisent. Dans les autres états, la croix est vertu et se relève d'autant plus que les états s'avancent. Ici, elle est Dieu pour l'âme, comme le reste. Tout ce qui fait la vie de cette âme, tout ce qu'elle a de moment en moment, lui étant Dieu. L'extérieur de ces personnes est tout commun et l'on n'y voit rien d'extraordinaire. Plus elles s'avancent, plus elles deviennent libres, n'ayant rien d'extraordinaire qui paraisse au dehors qu'à ceux qui en sont capables. Ici, tout se voit, sans voir, en Dieu, tel qu'il est. C'est pourquoi cet état n'est point sujet à la tromperie. Il n'y a point de vision, révélation, extase, ravissement, changement. Tout cela n'est point de cet état qui est fort au-dessus de tout cela. Cette voie est simple, pure et nue, ne voyant rien qu'en Dieu, comme Dieu le voit et par ses yeux.